Bien, chers amis, avant toute chose, il me faut adresser quelques mots de remerciement au Centre de droit public de l'ULB qui m'a fait le plaisir de m'inviter à ce cycle de conférences et dans la même foulée de vous adresser également mes remerciements pour votre présence malgré des éléments déchaînés. Il faut effectivement être stoïque pour se rendre à l'ULB aujourd'hui dans les conditions atmosphériques actuelles. Avant toute chose, il me faut faire une observation préliminaire et croyez-le bien, il ne s'agit pas d'une clause de style. Je voudrais insister sur le fait que si je prends la parole aujourd'hui, c'est à titre strictement personnel. Je n'ai en effet pas qualité pour engager l'institution et du reste, je n'ai jamais, en quelque qualité que ce soit, eu mandat pour exprimer l'opinion officielle du Conseil d'État, à supposer qu'il y ait possibilité d'avoir une opinion officielle dans un cercle de juristes. Deuxième observation que je voudrais faire, c'est que compte tenu des contraintes horaires et aussi, je dirais, des circonstances, l'exposé que je vais vous faire est un exposé qui a trait à des considérations d'ordre général. Il ne s'agit pas ici de tenter de faire, je dirais, un exposé exhaustif de toutes les mesures qui ont été prises concernant la juridiction administrative. Ceci dit, je vais donc vous entretenir du sujet qui m'a été proposé et qui est « Le Conseil d'État est-il trop formaliste ?» Et j'ai délibérément choisi d'élargir quelque peu le sujet en ce sens que ce reproche d'un formalisme excessif n'est pas le seul qui soit adressé au Conseil d'État. En effet, depuis des années et des années, il y a eu toujours des critiques, plus acerbes les unes que les autres, qui ont été adressées à cette institution. Et si vous voulez bien, je vais, dans le cadre de cet exposé, énoncer les différentes accusations qui ont été portées à l'encontre du Conseil d'État et également discuter des remèdes qui ont été proposés ou qui ont été adoptés en vue de pallier ces prétendues insuffisances ou défauts de la haute juridiction administrative. Premier reproche, ce reproche est que les juridictions administratives ne sont pas nécessaires. Elles seraient superflues, elles brouillent le paysage juridictionnel belge. Les juridictions judiciaires suffisent amplement. Elles sont plus rapides, plus efficientes, plus propres, plus proches des justiciables et assurent une protection juridictionnelle plus complète que celle offerte par le Conseil d'État. Bref, le Conseil d'État est une greffe et une greffe qui a du mal à prendre et qui suscite des réactions de rejet. Et là, tous les défauts. Le remède préconisé est évidemment à la mesure, vous vous en doutez bien, de la gravité des accusations portées à l'encontre de l'accusé. On propose tout simplement d'abandonner le système dualiste belge pour un système qui est un système moniste. Ce mouvement n'est pas récent. Ce mouvement a été initié dès 1998 par Paul van Orshoven et c'est un système qui a toujours ses partisans en Flandre, même si le mouvement a tendance en Flandre à s'essouffler et à prendre une autre orientation, celle de la défédéralisation de la justice administrative. J'y reviendrai. Curieusement, c'est du côté des juristes francophones que ce mouvement semble connaître un regain d'actualité. En effet, consultant ce remarquable ouvrage qu'est la justice administrative, cette brique, si je puis dire, et prenant connaissance d'un article de mon ami Bruno Lombard, je lis en conclusion « Ne serait-il pas enfin temps de réfléchir sérieusement à l'opportunité de rebattre les cartes et de revenir à un système unique de protection juridictionnelle où, à l'image par exemple de l'Allemagne, le juge judiciaire exercerait un contrôle de l'excès de pouvoir des actes administratifs en mettant en œuvre un pouvoir d'annulation. Ce serait bien plus conforme à la philosophie et à la cohérence constitutionnelle. Et le citoyen y gagnerait sans aucun doute en lisibilité et en efficacité, dès lors que d'une part des détours inutiles pourraient être évités, et d'autre part, les juges judiciaires chargés de ce contentieux resteraient des magistrats spécialisés dans le contrôle de l'action administrative, statuant suivant une procédure adaptée au contentieux administratif. Ce serait certes une réforme juridique d'envergure, nécessitant une révision constitutionnelle et d'importantes modifications législatives. Ce serait aussi une réforme qui, pour la plupart des juristes spécialisés en droit administratif, légitimement attachés au Conseil d'État comme l'est l'auteur de ces lignes, qui a fait partie de l'institution, serait difficile du point de vue sentimental, mais ce pourrait être une réforme utile pour l'ensemble des acteurs de justice administrative. Outre que de l'aveu des tenants de cette théorie, elle implique, vous l'avez entendu, une révision constitutionnelle et législative d'envergure. Cette solution présente des inconvénients majeurs, sur lesquels je me suis d'ailleurs du reste longuement expliqué dans le Facebundel d'Hugo Vandenberg, publié en 2007. En effet, Hugo Vandenberg, comme vous le savez, était un sénateur, ancien ministre, je pense aussi de la justice, en tout cas sénateur CDNV, qui avait, je dirais, en plus de sa fonction de sénateur, avait également des tâches d'enseignement à la KU Leuven et qui est donc, je dirais, l'interprète au point de vue législatif des idées qui étaient défendues par Paul Orshoven et par ses disciples. J'écrivais, et je vous cite tout de même ce texte, « La solution préconisée par les tenants du modisme juridictionnel intégral consisterait à transférer à des juges à compétence générale un pouvoir d'annulation que le législateur avait cru devoir réserver à une instance spécialisée. Le justiciable s'en trouvera-t-il mieux servi ? On peut sérieusement douter. Ces éminents auteurs minimisent en tout cas les difficultés que soulève en théorie comme en pratique pareil transfert. D'abord, il est problématique qu'une telle réforme puisse avoir lieu sans une modification de la Constitution. L'article 159 de celle-ci ne pouvant, selon nous, être interprété comme allant jusqu'à conférer au pouvoir judiciaire un pouvoir d'annulation. Ensuite, il ne faut pas se dissimuler que reconnaître de manière généralisée, comme dans la proposition du sénateur Vandenberg, à tous les tribunaux de première instance du royaume le pouvoir d'annuler des actes administratifs conduira nécessairement à des difficultés inextricables. Ainsi, comment éviter la contradiction de jugement lorsque plusieurs tribunaux de première instance seront saisis en même temps d'un recours en annulation d'un acte individuel ? Comment surtout gérer une situation dans laquelle un jugement d'un tribunal de première instance, ayant annulé un acte administratif, serait ensuite réformé en degré d'appel, l'arrêt de la Cour d'appel étant finalement cassé par la Cour de cassation avec renvoi à une autre cour d'appel qui, elle, annulerait à nouveau l'acte administratif. Ainsi, l'acte administratif aurait plusieurs vies successives. La métempsychose serait ainsi érigée en dogme fondamental du contrôle juridictionnel de l'administration. Que se passera-t-il par ailleurs lorsque ce qui apparaîtrait à première vue comme un acte individuel s'avérerait finalement un acte à caractère réglementaire? Par ailleurs, si la solution retenue est de confier à une chambre spécialisée de la Cour de cassation le contentieux de l'excès de pouvoir tel qu'il était exercé par le Conseil d'État, on n'aperçoit pas le gain qui peut en résulter, si ce n'est la satisfaction purement platonique d'avoir supprimé le Conseil d'État. Et last but not least, il faudra en toute hypothèse régler au sein du pouvoir judiciaire les interactions entre le contentieux des droits subjectifs à caractère diffus et un contentieux objectif qui, lui, serait centralisé au niveau de la Cour de cassation. À côté de cette critique radicale qui consiste à doter le Conseil d'État de tous les défauts et qui tend à sa suppression pure et simple, le reproche majeur adressé au Conseil d'État est le délai déraisonnable dans lequel les arrêts sont rendus et, conséquence, les dommages collatéraux qui peuvent en résulter lorsque l'arrêt est d'annulation. Il y a aussi, comme reproche, la difficulté d'exécuter l'arrêt rendu aussi tardivement. Les causes de cet allongement des délais sont connues, je n'y reviendrai pas. Quel est le remède préconisé? Le référé paraît à première vue de nature à remédier à cette situation. Mais la réalité contredit en tout cas partiellement cette attente. Le recours généralisé au référé a en effet eu pour effet pervers d'allonger les délais. Au surplus, le rejet du référé pour des motifs autres que ceux liés à un moyen sérieux ne permet pas de préjuger de l'issue du projet et laisse le justiciable sur sa faim. Que le moyen soit jugé sérieux ou non, de toute manière, dans la plupart des cas, l'expérience nous apprend que le procès se poursuit. Les attentes des parties peuvent également être déjouées lorsque l'arrêt au fond contredit l'arrêt au provisoire. Bref, beaucoup de bruit pour rien. La réforme du référé, la réforme récente du référé, est-elle de nature à changer cette situation? À titre strictement personnel, nous considérons que cette réforme ne modifie pas fondamentalement la situation, que du contraire. Le nombre des référés pourrait même augmenter sensiblement dans la mesure où le référé peut être introduit en cours de procédure. Il y a ensuite que la condition d'un risque de préjudice difficilement réparable est abandonnée au profit volontaire d'une notion, la notion d'urgence, qui, dans l'esprit de ses auteurs, est considérée comme plus souple. Enfin, la balance des intérêts en présence peut conduire à ne pas suspendre l'acte administratif présentant pourtant un vice sérieux d'illégalité, un risque sérieux d'illégalité, et rendre ainsi plus compliqué le rétablissement ultérieur de la légalité. Quels seraient donc les remèdes adéquats? Oh, je n'ai pas la prétention de trouver, avec un coup de baguette magique, la solution parfaite. Il y a en réalité tout un ensemble de mesures qui peuvent cependant être prises et conduire à une réduction appréciable des délais. La première c'est l'évaluation de la charge de travail des magistrats. Or, je sais bien, c'est un peu, je dirais, une panacée universelle, mais elle correspond néanmoins à un besoin urgent. Or, je sais bien que des objections sont formulées au sein même de la magistrature qui considère que les procès sont tellement différents les uns des autres qu'il est pratiquement impossible d'évaluer la charge de travail. Sans doute existe-t-il des particularités, des affaires plus complexes les unes que les autres. Tout cela est vrai, mais il n'empêche que l'on pourrait tout de même, par catégorie, établir des délais moyens qui devraient être respectés par les membres aussi bien de l'auditorat que du conseil. Deuxième mesure à laquelle on peut songer, c'est le maintien du double examen, mais avec une réduction des délais dans lesquels les mémoires sont échangées et une fixation du délai pour le dépôt du rapport. En ce qui concerne cette mesure, il faut toutefois tenir compte de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et également de la Cour européenne des droits de l'homme. Je cite à cet égard un arrêt récent du 1er juin 2016 de la Cour constitutionnelle, l'arrêt numéro 44-2016 du 17 mars 2016, où la Cour constitutionnelle, au point B5.2, dit ceci: « Plus particulièrement, les règles relatives aux formalités et délais fixés pour former un recours visent à assurer une bonne administration de la justice et à écarter les risques d'insécurité juridique. Toutefois, ces règles ne peuvent empêcher les justiciables de se prévaloir des voies de recours disponibles. Et ensuite, ce qui paraît important, de surcroît, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, on parle de la procédure devant la juridiction elle-même, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établie par la loi. Tout est donc question d'appréciation au cas par cas. On peut également penser à d'autres mesures, telles que, c'est le cas actuellement, le recours aux procédures abrégées, la procédure électronique, la mémoire de synthèse, l'indication préalable du temps de plaidoirie et éventuellement la renonciation des parties à une audience publique. Voilà, je dirais, pour cette critique fondamentale qui est adressée au Conseil d'État, mais qui pourrait également l'être à toutes les juridictions du royaume, et plus encore, même aux juridictions internationales qui censurent le dépassement du délai raisonnable sans avoir égard elle-même au délai qui s'impose. Vient ensuite la critique spécifique qui fait l'objet de notre conférence de ce jour, selon laquelle le Conseil d'État serait trop formaliste. Cette critique a été formulée par les hommes politiques, par également des hommes d'affaires qui se plaignent d'arrêts qui, pour des motifs soi-disant de pure forme, annulent tardivement des décisions qui contrarient ou mettent en échec la politique du gouvernement ou leurs projets économiques et sociaux. Ce reproche trouve un écho auprès de la haute administration. On a parlé de M. Van Wassenhove, sans le citer nommément, qui était président du comité de direction du SPF Sécurité sociale et qui, après avoir vu sa nomination être annulée par le Conseil d'État, n'a pas hésité à qualifier le Conseil d'État d'ennemi public numéro un. Je ne vous cacherai pas que, en ma qualité de président du Conseil d'État, j'avais écrit au ministre pour lui signaler tout de même que des propos de cette nature étaient peut-être inconvenants dans la bouche d'un aussi haut fonctionnaire, mais le ministre de l'époque a estimé ne pas devoir répondre à cette lettre, et je ne pense pas que l'intéressé ait eu quelque ennui que ce soit, étant couvert par son ministre. Plus curieusement même, j'ai constaté que le président même du centre de droit public de cette université n'était pas loin de partager cette opinion, encore que faut-il dire, en des termes bien plus élégants et plus choisis que ceux que M. Van Wassenhoven avait estimé utiliser. Et à cet égard, j'ai lu avec intérêt une très bonne note d'ailleurs de Mark Uitendaal sur la boucle administrative flamande publiée dans APT, qui est un commentaire d'un arrêt de la Cour constitutionnelle numéro 74-2014 du 8 mai 2014. C'est l'arrêt qui annule la boucle flamande, et où il écrivait, je cite, tout praticien, donc tout le monde, tous les avocats, présents et absents, tout praticien sait à quel point le Conseil d'État a pu, à l'occasion, être prisonnier d'une ivresse de formalisme et compromettre par certains de ses arrêts le bon fonctionnement du service public. Ainsi, par exemple, le contrôle serré qu'il opère sur la motivation formelle des actes administratifs lui permet de sanctionner l'administration dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, quand bien même celui-ci ne peut se voir reprocher aucune erreur manifeste d'appréciation. De même, sa jurisprudence tatillonne en matière disciplinaire fait que sanctionner un agent public s'analyse comme un véritable parcours du combattant, tant les exigences procédurales sont multiples et complexes. Il s'en déduit que les administrations comprennent en leur sein nombre d'agents qui n'ont pas la compétence ou l'intégrité requise et qui, dans le privé, auraient fait de l'objet depuis bien longtemps d'un licenciement. Propos assez étonnant dans la bouche de M. Tendin. Enfin, le caractère tatillon de la jurisprudence du Conseil d'État dans ce domaine et dans d'autres est l'un des facteurs non exclusifs, évidemment, j'ai cité d'autres facteurs, d'une certaine inefficacité de l'action administrative. Le législateur a pris un ensemble de mesures qui visent non à faire du Conseil d'État l'ami de l'administration, mais à tout le moins une autorité qui n'en soit pas le censeur atavique. Citation de l'auteur. Enfin, et ce reproche est intimement lié au précédent, c'est-à-dire cet excès de formalisme, le reproche est adressé au Conseil d'État que celui-ci ne dispose pas des instruments efficaces. En quelque sorte, après avoir l'accusé de tous les maux, on lui trouve des circonstances atténuantes. Il n'est pas si coupable que cela. Coupable, il l'est, mais tout de même, la clémence pourrait être envisagée. La thèse consiste à dire que l'annulation est une arme trop absolue, qu'elle peut entraîner des conséquences dommageables totalement disproportionnées et qu'elle n'assure pas un rétablissement intégral de la légalité et ne met pas définitivement fin au litige. Quels sont, de ce point de vue, les remèdes préconisés ? D'aucuns préconisent à cet effet une extension des compétences du pouvoir judiciaire. On se trouve ici en présence, si je puis dire, d'une forme édulcorée, atténuée du monisme. Il faut enlever des compétences au Conseil d'État pour les transférer aux juridictions de l'ordre judiciaire. J'en vois un exemple récent dans la lettre ouverte des présidents des CIO des SPF au ministre de la fonction publique, président des CIO, parmi lesquels on retrouve bien entendu M. Van Wassenhoven, fallait-il en douter. Quel est le but de cette lettre ouverte? C'est d'inviter le ministre de la fonction publique actuelle, M. Van Veldhoven, à reprendre les idées de son prédécesseur, le secrétaire d'État Bogart, qui préconisait que le contentieux de la fonction publique soit entièrement confié aux juridictions de l'ordre judiciaire. Il y a eu également, sous le gouvernement de l'Orange Bleu, une proposition qui visait à créer au sein du pouvoir judiciaire des tribunaux compétents en matière d'aménagement du territoire et d'environnement. Voilà donc une tendance. Cette tendance pourrait constituer effectivement un danger pour le Conseil d'État et pour ses compétences si effectivement tout le contentieux relatif à la fonction publique était transféré purement et simplement aux juridictions du travail. D'autres préfèrent cependant doter les juridictions administratives d'instruments plus adaptés et permettant une solution définitive du litige. Il s'agit non seulement de doter le Conseil d'État de ces instruments nouveaux, mais aussi les autres juridictions administratives que ces collectivités fédérées estiment nécessaires en vue d'avoir une maîtrise complète des matières relevant de leurs compétences. Le Conseil d'État demeure certes partiellement compétent, mais non plus en tant que juge de l'excès de pouvoir, mais en tant que juge de cassation. Si la recherche d'une meilleure adaptation et efficacité de la justice administrative est un objectif louable, nul n'en disconvient, la multiplication de juridictions administratives fédérées par le biais des pouvoirs implicites fait peser un grave danger sur l'avenir du Conseil d'État. Si la section de législation du Conseil d'État, sous l'influence de la jurisprudence bienveillante de la Cour constitutionnelle et singulièrement de son arrêt numéro 8/2011, arrêt qui ne pose comme seule limite véritable, réelle, au pouvoir implicite des collectivités fédérées, que celle résultant de l'impact marginal sur les compétences fédérales. Autrement dit, il suffit que les actes réglementaires restent soumis à la censure du Conseil d'État et que, pour les actes individuels, le Conseil d'État reste compétent comme juge de cassation. Sous cette influence, dis-je, le Conseil d'État, section de législation, a dû se résoudre à assouplir sa position. Elle a cependant récemment pris conscience de la menace que cette prolifération représentait pour sa survie. Dans une étude récente, Anne-Sophie Bouvy, étude consacrée à la place des juridictions administratives régionales et communautaires dans la Belgique fédérale, met particulièrement l'accent sur ce danger en empruntant, il n'y a pas de droit d'auteur en la matière, dès lors qu'on cite l'auteur en question, elle a repris l'image fort éloquente utilisée par Xavier Delgrange de la grenouille. Elle dit, si on plonge une grenouille dans l'eau bouillante, elle s'échappe d'un seul bond. La grenouille étant, vous l'aurez compris, la section de législation du Conseil d'État et à travers lui, le Conseil d'État lui-même. En revanche, si plutôt que de l'ébouillanter directement, si l'on l'immerge d'abord dans de l'eau froide et que l'on augmente ensuite progressivement la température, elle finit ébouillantée. son corps s'étant acclimaté à cette hausse température. En l'espèce, plutôt que de soustraire une part significative du contentieux relevant du Conseil d'État, ce qui aurait certainement amené la section de législation et peut-être la Cour constitutionnelle à considérer que la condition d'impact marginal n'était pas remplie, on assiste au second scénario, c'est-à-dire une soustraction progressive et proportionnée de petits morceaux de ce contentieux. Le fait qu'aujourd'hui l'eau ne boue pas encore ne signifie pas que la température ne va pas continuer à grimper. Et effectivement, le Conseil d'État, section de législation, dans deux avis, un rendu à propos d'un décret flamand qui visait à étendre les compétences de la juridiction administrative compétente en la matière à certaines autorisations en matière d'environnement, et dans un autre avis consacré à la création d'une juridiction administrative wallonne, a fait des réserves en ce qui concerne précisément cette tactique des petits pas à la Kissinger qui consiste progressivement à vous phagocyter. J'avais du reste moi-même, en son temps, mis également l'accent sur ce danger. Le Conseil d'État a donné à entendre que ce recours au pouvoir implicite avait des limites et n'était pas susceptible de conduire ainsi à une défédéralisation totale de la justice administrative, comme pourtant le prétend Hugo van Praat, dans notamment de l'attente Staatshervorming. Il dit qu'il n'était pas nécessaire de modifier la Constitution, les pouvoirs implicites suffisent à réaliser cet objectif. Cette mise en garde, si je puis dire, à fleurer mouchetée, s'agissant bien entendu du Conseil d'État, quant à un revirement d'attitude pour le cas où de nouvelles compétences viendraient ainsi progressivement à vider les compétences de la section du contentieux, la rendant comme une coquille vide, cette mise en garde aura-t-elle des effets? J'en doute sérieusement. Et j'en veux pour preuve que, il n'y a pas longtemps de cela, Belga publiait un communiqué du président du gouvernement flamand dans lequel celui-ci faisait état de sa volonté de créer dans la coupole fêtière qui rassemble les juridictions administratives actuelles, entendait créer une nouvelle juridiction, cette fois une juridiction des expropriations, et il allait déposer de manière imminente un décret, un nouveau décret, un onteigningsdecret qui visait précisément à élargir les compétences de cette juridiction fêtière. Cette prolifération des juridictions administratives est d'autant plus sujette à caution que le Conseil d'État a, notamment à la demande pressante des collectivités fédérées, subi lui-même un lifting visant en ordre principal à le doter d'une panoplie complète d'instruments de contrôle au lieu du seul pouvoir d'annulation. Sans vouloir entrer dans le détail des mesures prises dans le cadre de cette réforme, qui a déjà fait l'objet de très nombreux commentaires, parmi lesquels le volumineux ouvrage collectif, je ne fais pas de publicité pour cet ouvrage, mais il mérite effectivement une lecture. Les articles sont excellents, je n'en partage pas toujours, faut-il le dire, les opinions qui y sont émises, mais je vous le recommande chaleureusement, c'est un ouvrage de référence. Cette réforme, dis-je, vise à faire jouer un rôle plus actif et plus moderne au Conseil d'État en le chargeant de tenir davantage compte dans ses arrêts des dommages collatéraux qu'une annulation pure et simple peut entraîner. C'est le rappel de l'exigence d'un intérêt au moyen, c'est la balance des intérêts en présence dans le cadre du référé, c'est le maintien des effets dans le temps des actes réglementaires et individuels annulés. Et par suite, le Conseil d'État est invité à avoir davantage égard dans la solution du litige à ce que requiert l'intérêt général. Ce rôle actif doit aussi le conduire à se soucier de l'efficacité et de la bonne exécution de son arrêt. Indication à la demande des parties dans les motifs de l'arrêt d'annulation de la voie à suivre en vue d'assurer l'exécution correcte du dispositif. Un pas plus loin, la formulation d'injonctions positives ou négatives à ce même effet, voire même la prise par le Conseil d'État lui-même de la décision qu'implique la bonne exécution de l'arrêt. C'est le pouvoir de substitution. Le souci de mettre définitivement fin au litige est omniprésent et est particulièrement mis en relief dans l'institution de la boucle administrative et dans l'attribution au Conseil d'État d'une nouvelle compétence au contentieux de l'indemnité. Cette réforme a été accueillie avec réserve et défiance par l'avocature. J'emploie le terme à dessein, même s'il n'est peut-être pas conforme au bon usage. Spécialement dans le chef des avocats des barreaux francophones et germanophones, qui se sont attachés à mettre davantage en exergue les défauts de la réforme que d'en montrer les qualités. La critique, pertinente parfois, s'est toutefois voulu davantage négatif que positif. La critique fondamentale qui est formulée à l'encontre de cette réforme et des mesures qui sont prises est que cette réforme conduit le Conseil d'État à méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, et cette critique a eu pour cible privilégiée la boucle administrative. Cette dernière critique a d'ailleurs été jugée fondée par la Cour constitutionnelle qui, dans ses arrêts numéro 74-2014 et 103-2015, a successivement annulé la Bostürk-Lüss et ensuite la boucle administrative fédérale. Ceci, toutefois, sous la forme qui leur avait été donnée par le législateur décrétal ou fédéral. La boucle est-elle pour autant bouclée? Une telle conclusion est à notre estime prématurée. Selon le professeur David Renders, qui est pourtant un pourfendeur de la boucle administrative, cette boucle peut être sauvée à certaines conditions. Il écrit en effet ceci dans un commentaire qu'il a fait sous l'arrêt annulant la Bostürk-Lüss. Si la boucle administrative peut être instituée, c'est à minima aux conditions suivantes. En permettant la seule réfection de l'acte irrégulier à l'exclusion de sa régularisation par nature irrégulière. Pour autant que le contenu de la décision nouvelle puisse lui aussi être modifié, en ayant préalablement permis aux parties à la cause de faire valoir leur point de vue au sujet de l'opération correctrice, dans les limites de ce que tolère par voie d'exception le principe de non-rétroactivité de l'acte administratif unilatéral, pour autant que l'acte refait puisse à son tour être susceptible de recours, notamment dans la chef des tiers, le tout en considérant que les dépens et l'indemnité de procédure juridictionnelle intentée initialement soient mis à charge de l'administration dont l'acte s'est révélé irrégulier. Ainsi donc, cette boucle, moyennant un ensemble de conditions, pourrait effectivement être sauvée, mais sous une forme sans doute relativement différente de celle qu'elle connaît actuellement. Et à cet égard, je voudrais vous signaler, pour autant que vous ne le sachiez déjà, ce que, à mon avis, est le cas, l'existence d'un décret du 3 juillet 2015 du législateur néerlandophone qui, à la suite de l'arrêt d'annulation de la Cour constitutionnelle, annulant donc la Bastur-Lekelus, a réintroduit dans le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, un article 34 qui, je dirais, entend tirer les leçons de l'enseignement de l'arrêt de la Cour constitutionnelle et qui a donné lieu à un avis de la section de législation du Conseil d'État qui est positif. À cet égard, je vous renvoie à un avis 57080 de la troisième chambre du Conseil d'État du 12 mars 2015 où la section de législation considère en effet que la boucle telle qu'elle est revue, telle qu'elle a été revisée par le législateur décrétal flamand, rencontre les objections qui ont été retenues par la Cour constitutionnelle, notamment en ce sens qu'il y a une première décision qui est une décision qui constate l'annulation de l'acte pour illégalité et qui ensuite donne aux parties la possibilité de prendre un acte nouveau. C'est au fond, si vous le voulez, si je puis me permettre ces comparaisons, c'est un retrait d'acte organisé, une réfection qui est organisée de manière contradictoire devant le juge administratif avec la possibilité ensuite pour les parties et spécialement pour les tiers d'intervenir à la cause et de pouvoir contester la mesure nouvelle qui sera prise. S'agissant ainsi d'une opération en deux phases, il va de soi que les dépens qui sont relatifs à l'acte annulé, à l'annulation de l'acte annulé, sont à charge de la partie succombante, ce qui était, je ne dirais pas le cas, sous le régime préexistant. De manière plus générale, on peut légitimement se demander si le principe de la séparation des pouvoirs, ou plus exactement, s'agissant de juridictions administratives créées en dehors du pouvoir judiciaire, le principe de la séparation des fonctions d'administré et de jugé ne doit pas être interprété avec souplesse et bon sens. Certes, ce principe se joint à celui d'impartialité et d'indépendance du juge pour s'opposer à ce que le juge prenne d'ores et déjà position au cours du procès sur la thèse défendue par l'une ou l'autre des parties en présence. Mais lorsque la décision est prise, sort-il de son rôle de juge de la légalité, lorsqu'il entend donner plein effet à sa décision en indiquant la voie à suivre et au besoin en formulant des injonctions positives ou négatives. En ce qui concerne ce pouvoir de formuler des injonctions positives et négatives, j'observe d'ailleurs que ce pouvoir existait déjà précédemment sous l'empire de la législation antérieure et que finalement les modifications qui vont être apportées sont des modifications mineures. Or, ce pouvoir, sauf erreur de ma part, n'avait précédemment jamais fait l'objet d'une critique de qui que ce soit. De même, s'il est vrai qu'il est généralement admis que le juge doit respecter la compétence discrétionnaire de l'administration et ne peut se rendre sur le terrain de l'opportunité, il est admis sans sourciller que ce principe n'est pas méconnu lorsque le juge censure la décision administrative sur la base des principes généraux de bonne administration, comme le principe de minutie, le principe de proportionnalité, ou encore sur la base du principe de standstill, ce qui, vous en conviendrez, amène le juge administratif à flirter dangereusement avec le discrétionnaire. La Cour constitutionnelle n'a-t-elle pas d'ailleurs aussi admis que le principe de sécurité juridique justifie l'octroi au Conseil d'État du pouvoir de moduler dans le temps les effets de ses arrêts d'annulation, pouvoir dont elle dispose elle-même? Ne pourrait-on aussi admettre qu'en dehors même de l'hypothèse de la compétence liée, le juge administratif puisse, pour certains actes individuels discrétionnaires, se substituer à l'administration? Et je pense ici plus particulièrement au pouvoir de réduire le montant d'une amende administrative jugée disproportionnée. Le juge administratif, et singulièrement le Conseil d'État, a sans nul doute été créé pour pallier les insuffisances à l'époque criantes du contrôle judiciaire de l'administration et a dans l'ensemble, je crois, répondu aux attentes. Soucieux de protéger les intérêts des citoyens et aussi de moraliser l'administration, le Conseil d'État a pour seul guide le respect de la légalité, mais d'une légalité qui laisse au juge une marge d'appréciation de plus en plus large, incluant la recherche d'un équilibre entre les intérêts contradictoires en présence, dont les intérêts supérieurs de la collectivité. Le Conseil d'État doit sans doute faire usage avec circonspection et prudence des instruments nouveaux dont il a été doté, mais leur maniement délicat ne peut suffire à fonder leur condamnation. Certes, il peut s'avérer plus difficile qu'auparavant de se prédire ce que sera la décision finale. Mais est-ce que cette prédiction a un jour été possible? Au surplus, n'est-ce pas là la conséquence inéluctable d'un droit de plus en plus complexe? Sauf erreur, le Conseil d'État fête cette année ses 70 ans d'existence. Quel sera son avenir? Bien malin qui peut le prédire. Une seule certitude, son avenir dépend en ordre principal de la volonté politique de défédéraliser la justice administrative et de l'ampleur que revêtira cette réforme. En toute hypothèse, il me paraît probable, sinon certain, que de juge de l'excès de pouvoir, le Conseil d'État se muera progressivement mais sûrement en juge de cassation. Pour le reste, son avenir dépend de sa capacité à statuer dans des délais raisonnables et dans des arrêts qui, à défaut de faire l'unanimité, sont empreints de bon sens et de sagesse, et son avenir dépend aussi du soutien dont il bénéficiera de la part de la communauté des juristes. Des améliorations sont évidemment toujours possibles, et les critiques, surtout constructives, sont toujours les bienvenues, mais gardons-nous bien de ne pas jeter l'enfant avec l'eau du bain. Je vous remercie de votre attention.